Le journal vous est présenté par Guillaume Fariol.
Bonjour. C'est l'un des cinq piliers de l'islam, le Hajj, pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque débute aujourd'hui. L'occasion pour le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, de moderniser l'image de son pays. Décryptage dans un instant. Angela Merkel et Vladimir Poutine unis. Les deux dirigeants se sont rencontrés hier. Ils font front commun face à l'Amérique de Donald Trump, notamment sur le dossier du nucléaire iranien. Elle est aux mains de djihadistes maliens depuis plus de 600 jours. Sophie Petronin a été capturée en décembre 2016. Le temps passe, rien ne bouge, la santé de la Française se dégrade. Sa famille en appelle à Emmanuel Macron. Ascension fulgurante, puis chute vertigineuse à la fin de l'année dernière. Le Bitcoin fête ses 10 ans aujourd'hui, la crypto-monnaie divise. Pour certains, c'est un incontournable. Pour d'autres, rien de plus qu'un outil de spéculation imprévisible. 2 millions de musulmans attendus à la Mecque pendant 5 jours. Le Hajj, le grand pèlerinage, débute aujourd'hui. C'est un des 5 piliers de l'islam. C'est aussi une rente inestimable pour l'Arabie Saoudite. Chaque année, le royaume montre sa puissance au reste du monde musulman grâce à son statut de gardien des lieux saints. Le prince héritier Mohamed Ben Salman compte bien utiliser cet événement dans sa stratégie de modernisation de l'image de son pays. Les explications de Claude Guibal.
Pour le tout-puissant prince héritier Mohamed Ben Salman, l'homme fort de Riyad, le Hajj qui débute doit incarner la nouvelle Arabie Saoudite, celle qu'il entend promouvoir dans le cadre de son plan Vision 2030, un plan ambitieux de transformation économique et sociale du pays, censé permettre à l'Arabie de sauter dans la modernité, de diversifier son économie et de devenir attractive pour les investisseurs dans un avenir sinon assez sombre pour les pétromonarchies. Tout est bon. Opération de com tous azimuts, ouverture culturelle, sociétale, avec l'autorisation de conduite pour les femmes, la création de cinéma et le Hajj 2018, lui, sera celui de la technologie, avec la mise en fonction de dizaines d'applis ultra performantes visant à faciliter le séjour des plus de 2 millions de pèlerins. Il s'agit aussi de pouvoir les géolocaliser et de mieux assurer la sécurité de cet événement régulièrement endeuillé par de terribles bousculades. Pour l'Arabie Saoudite qui cherche à modifier son image sur la scène internationale, ce pèlerinage est l'occasion de se montrer sous son meilleur visage pour tenter de faire oublier les critiques sur les questions des droits de l'homme, la répression des opposants ou les terribles conséquences humanitaires de sa gestion de la guerre au Yémen.
Claude Guibal pour France Culture. Israël ferme ce matin le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza. C'est le seul endroit par lequel des personnes peuvent transiter entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien. Le passage a été fermé en raison de la poursuite de manifestations violentes le long de la frontière, expliquent les autorités. Il reste tout de même ouvert pour les cas humanitaires et pour les malades. La rencontre a duré 3 heures. Sommet entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Hier, la chancelière allemande a reçu le président russe près de Berlin. Une première depuis l'annexion de la Crimée par Moscou. Le signe d'un rapprochement entre les deux dirigeants. Nathalie Versieux, correspondante de France Culture à Berlin.
Lorsqu'il se présente à la presse vers 18h samedi à Meseberg, dans le nord de Berlin, Angela Merkel et Vladimir Poutine affichent une distance polie, pas de connivence affichée entre les deux dirigeants qui se fréquentent depuis 13 ans sur le parquet diplomatique et que la crise ukrainienne a divisé. Mais leur volonté de se rapprocher est palpable. Nucléaire iranien, gazoduc Nord Stream 2, sur tous ces points, Merkel et Poutine affichent un front commun face à l'hostilité de Donald Trump. Je pense que les questions controversées ne peuvent être réglées que par le dialogue, rappelle la chancelière avant l'entretien de 3 heures, tandis que le président russe insiste sur le retour des réfugiés syriens dans leur pays et sur la nécessité pour la communauté internationale et l'Allemagne d'aider à la reconstruction de la Syrie.
Nathalie Versieux. Les trois principaux partis d'opposition vénézuéliens appellent à une grève à partir de mardi. Ils ne veulent pas des réformes économiques annoncées par le président Nicolas Maduro, notamment l'entrée en circulation demain de nouveaux billets en bolivar avec 5-0 de moins que les actuels. Le Venezuela fait face à une crise économique sans précédent. L'inflation atteindra 1,2% d'ici la fin de l'année selon le Fonds monétaire international. En Inde, la pluie se déchaîne toujours, des inondations catastrophiques ravagent l'état du Kerala dans le sud du pays. Le bilan s'alourdit ce matin, il y a au moins 357 morts. Et pendant ce temps, la pluie continue donc de tomber. Aucune amélioration en vue selon les prévisions météo. Le Ghana se prépare à une semaine de deuil national. Ça débute demain en hommage à Kofi Annan, mort hier à l'âge de 80 ans. Ce Ghanéen a été le tout premier secrétaire général de l'ONU, originaire d'Afrique subsaharienne. Il a également reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Cela fait désormais plus de 600 jours que Sophie Petronin est otage au Mali. Cette pédiatre de 73 ans a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao. Elle dirigeait une ONG sur place. La dernière preuve de vie de la Française remonte à 2 mois. Une vidéo diffusée par ses ravisseurs, des djihadistes. Depuis, la famille de l'otage est sans nouvelles. Lionel Granouillac est le neveu de Sophie Petronin. Il appelle Emmanuel Macron à intervenir personnellement.
On pense que c'est la personne la plus apte à faire avancer la situation de manière significative. Les différents services de l'État, eux, sont à ses ordres aussi, évidemment. Mais on pense que aujourd'hui, il faut qu'on passe dans une autre dimension dans les relations avec l'État. Ça fait maintenant plus de 600 jours. Elle a 73 ans, elle est malade, otage. Même si Sœur Gloria, qui est détenue avec elle, s'occupe d'elle au quotidien, d'après ce qu'on a pu voir dans la dernière vidéo, il est urgent de la sortir de là. Il n'y a même plus de qualificatif autre, c'est l'urgence.
Quand vous évoquez de changer de rapport avec l'État, qu'est-ce que vous entendez par là?
Disons qu'on veut avoir des interlocuteurs qui soient décideurs. Nous avons rencontré des fonctionnaires du Quai d'Orsay, des proches conseillers de M. Le Drian et M. Le Drian lui-même, mais aujourd'hui on n'a aucun résultat tangible. Donc on veut comprendre pourquoi on n'a pas de résultat, on veut comprendre aussi la finalité des actions du président sur ce dossier. Et puis on demande à être traité comme, toutes les familles d'otages ont été traitées jusqu'à présent.
Europe Écologie Les Verts veut faire interdire les produits de Monsanto à base de glyphosate en France. Le parti va déposer un recours devant le tribunal administratif. Une action en justice une semaine seulement après la condamnation du géant de l'agrochimie aux États-Unis. Un tribunal américain a reconnu pour la première fois l'implication des produits de Monsanto dans le cancer d'un plaignant. Le Bitcoin fête ses 10 ans aujourd'hui. La crypto-monnaie a été créée le 19 août 2008. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Certains économistes y voient un instrument de spéculation sans garantie pour ses détenteurs. Il faut dire que la valeur du Bitcoin joue au yo-yo. Retour sur la vie mouvementée de cette monnaie, pas comme les autres, avec Jean-Marc Chardon.
On ne l'a peut-être guère remarqué, mais la naissance du Bitcoin survient à une période particulièrement mouvementée de l'histoire financière. 2008, lorsque la crise se déchaîne, car si son créateur a fondé le site en août, ce n'est qu'en octobre qu'il a lancé sa monnaie au plus fort de la tempête, au moment où les faillites bancaires se sont succédées. Avec le Bitcoin, certains ont pu croire à un moment qu'ils pourraient mettre leur argent à l'abri et hors de la portée des services fiscaux. Depuis, cette monnaie sans billet ni pièce, qui peut être stockée sur l'équivalent d'une clé USB, a connu une évolution qui l'a conduit au sommet jusque fin 2017 avant la dégringolade, perdant quasiment la moitié de sa valeur. Un parcours en forme de montagne russe, il suffit d'ailleurs de parcourir les commentaires de bourse. Le 19 juin, il flambe, le 24, il plonge, le 25, sursaut technique, il flambe de nouveau le 2 juillet, s'effondre le 10, s'enflamme le 18. Les investisseurs en mal de sécurité seraient bien en peine d'y trouver un placement pertinent. En revanche, c'est le plus beau symbole de l'émission d'un actif en liberté, comme l'avait rêvé l'économiste Friedrich Hayek, et avec cela décentralisé, hors du contrôle des banques, mais pas à l'abri des arnaques pour autant, aux côtés du millier d'autres crypto-devises au parcours fluctuant. C'est dire que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, qu'il reste à la merci de la confiance que lui accordent ses utilisateurs et qu'il ne les protège même pas de l'inflation, laquelle est de retour.
Jean-Marc Chardon pour France Culture. Le temps pour aujourd'hui, c'est du soleil quasiment partout. En début de soirée, prudence, quelques orages sont attendus sur la Corse. Un peu de pluie aussi dans le sud des Alpes. Côté température, c'est estival. Ça ne descend pas en dessous de 20 degrés. Comptez donc 20 à Brest et Cherbourg, 25 pour Lille. Il fera 29 à Paris, 30 à Strasbourg et à Toulouse, 31 pour Marseille. Et la maximale, c'est pour Perpignan avec 32 degrés.